Radio France Internationale, il est 8h10, à Bogota 13h10, en temps universel, l'heure d'un nouveau journal des Amériques et d'Haïti. Avec vous, Joanne Burgel, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous. Une décision historique en Colombie. La Cour suprême assigne à résidence l'ex-président Alvaro Uribe dans le cadre d'une enquête pour subornation de témoins. Nous parlerons aussi d'Haïti dans la revue de presse. Haïti, où un bébé de 4 mois a été tué dans l'attaque d'un gang armé. Le gouvernement se dit indigné par l'incapacité de la police à répondre à sa mission. Il sera aussi question du Brésil. La Cour suprême reprend aujourd'hui sa session en vue d'un jugement sur la protection des peuples indigènes face aux menaces du coronavirus. Au sommaire également, l'Argentine qui a trouvé un accord avec ses créanciers pour la restructuration de 66 milliards de dollars de dettes. Le président Alberto Fernandez fait part de sa satisfaction. Et puis l'actualité des Outre-mer avec la création d'un CHU en Guyane qui semble en bonne voie.
Radio France Internationale, las voces del mundo.
C'est historique et cela provoque une onde de choc en Colombie. La Cour suprême a ordonné hier l'assignation à résidence, de l'ex-président Alvaro Uribe. Le sénateur est soupçonné de subornation de témoins et de fraude. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une telle mesure est imposée à un ancien chef d'État. Alvaro Uribe, qui vit habituellement dans sa propriété de Rio Negro, près de Medellín, doit maintenant attendre la date de son procès devant cette cour, seule habilitée à juger les parlementaires. Les réactions politiques et celles de citoyens se multiplient. Malgré la pandémie de coronavirus et le confinement obligatoire, des rassemblements ont été organisés dans tout le pays. Les détails avec notre correspondante à Medellín, Najet Benrabah.
C'est Alvaro Uribe lui-même qui s'est chargé d'annoncer la nouvelle sur son compte Twitter. L'ex-président colombien a publié ces mots. « Cette privation de liberté me cause une grande peine, notamment pour ma femme et ma famille, ainsi que pour les Colombiens qui croient encore que j'ai fait quelque chose de bon pour ce pays. » Actuellement sénateur, Alvaro Uribe a été président de la Colombie de 2002 à 2010. C'est un représentant de la droite dure. Il fait l'objet de plusieurs enquêtes depuis des années. Cette fois-ci, ce sont les soupçons de subornation d'un témoin qui ont poussé la Cour suprême a prononcé son assignation à résidence. Le témoin en question s'appelle Juan Guillermo Monsalvé, un ancien militaire qui accuse Alvaro Uribe d'être mêlé à la création d'un groupe paramilitaire de la région d'Antioquia. Parmi les réactions, celle de l'actuel président Iván Duque, dont Uribe est considéré comme le mentor, il a défendu, je cite, son innocence. Ce soutien s'est aussi exprimé dans les rues, notamment à Medellín, avec des rassemblements appelant à la libération de l'ex-président. Najet Benrabah, Medellín, RFI.
Revue de presse des Amériques.
Une revue presse préparée par Stéphanie Schuller. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Joanne, bonjour à tous.
Alors nous venons d'en parler, l'arrestation de l'ex-président colombien Alvaro Uribe, qui est également à la une de votre revue de presse.
Oui, silence, les institutions travaillent, s'exclame par exemple l'éditorialiste des Spectadores. Aujourd'hui, le quotidien s'insurge contre les tentatives du conservateur de faire croire aux Colombiens que l'ancien chef de l'État serait victime d'un complot politique. Non, renchérit aussi El Tiempo, la décision de justice, bien que sans précédent dans l'histoire de notre pays, démontre rien d'autre que la séparation des pouvoirs, caractéristique indispensable de tout système démocratique. Et en démocratie, personne n'est au-dessus de la loi. De son côté, le journal La Patria conclut « Il ne fait aucun doute que de larges pans de la population colombienne sont convaincus de l'innocence de l'ancien président Alvaro Uribe, mais le respect de la décision de la Cour suprême ne doit aucunement faire l'objet de débats. »
Et direction les États-Unis maintenant, Stéphanie, où l'administration Trump a annoncé hier la visite prochaine du secrétaire américain à la santé, Alex Azar, une visite à Taïwan.
C'est la délégation américaine, Joanne, la plus éminente depuis 1979 sur l'île. Pékin a immédiatement accusé Washington de mettre gravement en danger les relations sino-américaines ainsi que la paix dans le détroit de Taïwan. Le New York Times souligne ce matin que l'île est un allié important, quoique non officiel des Américains dans le Pacifique. Les États-Unis continuent par exemple d'être le principal fournisseur d'armes de Taïwan. Mais jusqu'à présent, poursuit le journal, les contacts entre les deux pays ont eu lieu à huis clos pour ne pas froisser la Chine. Ce voyage, d'ores et déjà très médiatisé d'Alex Azar, marque donc une nette rupture.
Et alors pourquoi le voyage intervient-il maintenant ?
Eh bien, de nombreux commentateurs évoquent ce matin avant tout des motivations électoralistes, à l'instar du Washington Post qui écrit « Mal en point dans les sondages, le président Trump est en train de faire de la confrontation avec Pékin sur les dossiers du commerce, de la technologie et désormais aussi de la crise sanitaire, un élément central pour sa campagne de réélection ».
Parlons à présent, Stéphanie, d'Haïti, où la population est sous le choc. Lundi, un bébé de 4 mois a été tué quand un gang armé a attaqué un minibus dans la localité rurale de Gantier, près de la frontière avec la République dominicaine.
Oui, le petit Joseph Godson est mort d'une balle dans le dos, rapporte le Miami Herald. Le gang soupçonné d'avoir commis la fusillade s'appelle Katson Mawozo. Il opère dans cette zone depuis plusieurs années et en toute impunité, ont déclaré les riverains à Haiti Press Network. Le site d'information souligne que le commissariat de Gantier, avec 25 policiers et 3 voitures, dont 2 en panne, ne peut combattre ces bandits lourdement armés.
Le premier ministre haïtien, Joseph Jout, qui a accordé une interview à nos collègues du Nouvelliste.
Le chef du gouvernement se dit indigné de l'incapacité de la police nationale d'Haïti à répondre à sa mission. La PNH avait pourtant reçu de nouveaux équipements, dont des blindés. Mais dans les colonnes du journal, Joseph Jout dit admettre que les machines ne peuvent remplacer le professionnalisme, le savoir-faire et la volonté des agents pour combattre ce fléau qui ne fait que durer malgré tous les efforts consentis par le gouvernement. Fin de citation.
Il faut dire que cette volonté affichée par l'équipe au pouvoir pour combattre les gangs armés ne semble plus convaincre.
Oui, absolument, Joanne. Selon les chiffres des organisations des droits de l'homme en Haïti, au moins 116 Haïtiens ont été tués par des gangs au cours des premiers 6 mois de cette année, la plupart dans la région de Port-au-Prince, rappelle le Miami Herald. Une femme enceinte a été abattue la semaine dernière à Cité Soleil, par exemple, tout comme un bébé de 8 mois, tué en juillet par le membre bien connu d'un gang notoire de ce bidonville de la capitale. Les parents qui ont rendu l'assassinat de leur bébé public ont été menacés par le gang, tout comme l'ont été les journalistes qui avaient travaillé sur ce crime.
Et les familles des victimes qui souffrent aussi de l'absence de justice.
Tout à fait, après l'assassinat de l'enfant de 8 mois à Cité Soleil, Jacques Létang, président de la Fédération des barreaux d'Haïti, a demandé au juge de la paix de se rendre sur place pour mener l'enquête, rapporte encore le Miami Herald. Le juge de la paix lui a opposé une fin de non-recevoir, arguant que même la police ne pouvait plus se rendre dans ce secteur. Aucune autopsie n'a non plus été effectuée, ce qui démontre, selon Jacques Létang, l'indifférence totale du gouvernement, alors qu'il devrait garantir au contraire la sécurité de ses citoyens.
Le quotidien haïtien, Le National, qui fait aujourd'hui un constat qui n'est pas nouveau. L'État a perdu le contrôle du territoire au profit donc des gangs armés.
Et dans son éditorial intitulé « Indignez-vous », le journal lance un vibrant appel à la population. S'il est vrai que l'État est démissionnaire à tel point que ses responsables légaux sont souvent accusés, à tort ou à raison, d'être de connivence avec des gangs armés, les forces vives de la société devraient élever la voix pour dire « halte là, c'en est trop ». Et l'éditorialiste de conclure « Nous devons nous organiser face à l'arrogance des bandits et exiger que les autorités garantissent la sécurité, sinon qu'elles tirent leur révérence ».
La revue de presse des Amériques et d'Haïti, signée Stéphanie Schuller.
La chronique des Amériques.
Retour à présent sur le continent américain. L'Amérique latine a dépassé hier l'Europe. Elle est devenue la région qui compte le plus grand nombre de décès du coronavirus. Le Brésil est le pays le plus touché avec près de 96 000 morts. Ce mercredi, la Cour suprême brésilienne reprend une session en vue d'un jugement sur la protection des peuples indigènes face aux menaces du Covid-19. C'est une décision attendue par cette population très touchée par le coronavirus. Selon la principale organisation brésilienne de défense des peuples indigènes, on recense plus de 22 000 cas de contamination confirmés et plus de 600 décès. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour.
Pourquoi le jugement attendu ce mercredi est-il si important ?
Ce jugement, pour résumer, pourrait tout simplement déterminer le sort des peuples indigènes face à la crise de Covid. En fait, au début du mois de juillet, un juge de la Cour suprême a déjà, par injonction, ordonné au gouvernement fédéral de mettre en place une série de mesures de protection. Parmi ces mesures préconisées figurent des barrières sanitaires dans les villages isolés, un comité de pilotage composé de membres du gouvernement et d'indigènes, et la garantie à tous les indigènes d'un accès aux soins. La Cour suprême doit aujourd'hui décider si elle confirme ou pas cette injonction qui est, selon les dirigeants indigènes, essentiel afin de combattre la pandémie au sein de leur communauté. Japone Boni est membre de la Coordination des peuples indigènes du Brésil, une ONG de référence qui suit et recense des cas de COVID-19 dans les réserves, en ville et même auprès des plus isolés. Ce militant de l'État de Maranhão explique pourquoi les indigènes ne peuvent pas compter sur l'aide du gouvernement.
Dans sa gestion du Covid, le gouvernement fédéral ne recense pas tous les indigènes. C'est une politique qui a un véritable impact sur cette population. Les indigènes qui ne vivent pas sur des territoires protégés sont traités comme des fermiers classiques et ils ne recevront aucune aide. De ce fait, de nombreux indigènes meurent sans avoir eu accès aux soins dispensés par du personnel qualifié. Dans l'état de Maranhão, sur une population de 34 000 indigènes, il y a presque 3 200 cas de Covid. Et ce sont des chiffres qui ne prennent en compte que les personnes testées. Il y a beaucoup d'autres indigènes avec des symptômes du Covid, mais qui ne sont pas allés consulter un médecin dans les centres de soins les plus proches. Ils ne l'ont pas fait par peur d'être mal accueillis. C'est un préjugé très répandu parmi les indigènes. Ou tout simplement parce qu'il n'y a pas de test disponible, ce qui est très souvent le cas.
Et on ne peut même pas parler d'une inertie du gouvernement, Arim. Il y a une vraie politique qui consiste à ne pas aider les peuples indigènes.
Oui, exactement. Le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, avait rejeté par son veto plusieurs mesures d'un projet de loi approuvé par le Parlement et destiné à protéger les communautés exposées au coronavirus. Ces communautés sont alors obligées d'organiser elles-mêmes la lutte contre le Covid. Mario Nicasio Apichan est vice-président de l'organisation COIAB, la coordination des organisations indigènes de l'Amazonie brésilienne.
Nous ne sommes pas vraiment surpris de l'attitude du gouvernement. Brésilien. Notre organisation a été la première à présenter un plan d'urgence en faveur des indigènes vivant en Amazonie. Nous étions conscients du fait que l'action du gouvernement, au lieu d'aider les peuples indigènes, était plutôt dirigée contre eux. Notre plan d'urgence prévoit de récolter des fonds pour pouvoir acheter nous-mêmes tout le matériel sanitaire nécessaire, comme des masques ou du gel hydroalcoolique, sans oublier la nourriture. Ce plan d'urgence, nous l'avons fait connaître à travers les réseaux sociaux, mais aussi à travers notre station de radio qui est très écoutée ici en Amazonie. Nous sommes en train de mettre en place des centres de soins dans les zones où habitent les indigènes. Il y aura des médecins et nous faisons appel à des dons pour acheter des respirateurs et des médicaments.
Et une autre mesure demandée par les populations autochtones, c'est l'interdiction d'entrer sur leur territoire des fermiers et des orpailleurs illégaux, les chercheurs d'or.
Oui, car leurs intrusions, de plus en plus fréquentes, sont un grand facteur de risque. Les orpailleurs sont évidemment porteurs du Covid. Pour vous donner un exemple, rien que sur les territoires des Yanomami en Amazonie, il y a environ 20 000 orpailleurs illégaux. Dans son jugement, ce mercredi, la Cour suprême doit aussi déterminer si le gouvernement doit les expulser ou pas.
Un dossier signé à Arim Lipold avec des témoignages obtenus par la rédaction brésilienne. Les indigènes vont se faire entendre ce week-end lors de la Journée internationale des peuples indigènes. Des concerts de maracas sont prévus un peu partout au Brésil. RFI 10h et 23 minutes à Buenos Aires. Une bonne nouvelle sur le front économique en Argentine. Après des mois de négociations, le gouvernement et ses créanciers ont trouvé un accord sur la restructuration d'une partie de la dette argentine pour un montant de 66 milliards de dollars. Une dette en partie contractée par l'ex-président Mauricio Macri et que le nouveau gouvernement de centre-gauche avait qualifié d'insoutenable. L'Argentine pourrait donc sortir du défaut de paiement dans lequel elle avait basculé au mois de mai. Et le président Alberto Fernández s'est félicité de cette nouvelle.
Pour l'Argentine, l'accord que nous avons conclu signifie que nous aurons 37,5 milliards de dollars en moins à payer dans les 10 prochaines années. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire ? Que nous avons récupéré une certaine autonomie pour pouvoir allouer des fonds afin que de nombreux Argentins puissent avoir accès à un logement, que de nombreux chefs d'entreprise puissent avoir accès au crédit et relancer la production en Argentine. Et qu'en relançant la production, on puisse réactiver le marché de l'emploi. Nous avons dit aux Argentins et aux Argentines que nous allions remettre peu à peu le pays debout et nous sommes en train de le faire. Je remercie aussi les créanciers pour leur compréhension. Ils ont compris que l'Argentine, lorsqu'elle a présenté son offre, a fait un énorme effort.
que l'Argentine, offertant ce qu'elle offertait, était faisant un énorme effort.
Les propos du président Alberto Fernandez, recueillis par notre correspondante Aude Villiers-Moriamé.
Le journal de l'Outre-mer.
Un journal préparé, comme tous les jours, par nos confrères de la Première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Joanne.
La question de la création d'un CHU en Guyane semble désormais sur de bons rails.
Oui, le président de la collectivité territoriale de Guyane, bien sûr, et les quatre parlementaires, députés et sénateurs, étaient à Paris la semaine dernière pour rappeler au ministère concerné le contenu de la motion remise au Premier ministre Jean Castex il y a quelques semaines lors de son déplacement dans le département de l'Amérique du Sud. Patrick Clark.
Dès les années 90, l'UTG Santé pose la question de la création d'un CHU en Guyane. Les couleuvres avalées ont failli étouffer cette revendication. Mais aujourd'hui, le processus semble bien enclenché, car selon Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, cette dernière dispose des moyens financiers avec les fonds européens pour l'accompagner.
La preuve en est qu'il y a deux bâtiments qui vont sortir en 2022 en Guyane, à l'hôpital, à l'université, sur lesquels la CTG et l'Europe ont mis des millions en place pour cela. La deuxième, c'est que l'université a déjà tous les moyens. Elle a les 9 professeurs déjà. À La Réunion, ils ont commencé avec 3 professeurs. Qu'on a une équipe au conseil d'administration autour du président Primrose qui va appuyer la transformation de l'université en UFR, unité de formation et de recherche. Et puis la troisième, c'est que c'est l'opportunité idéal parce que la pandémie a révélé en fait nos carences, nos dysfonctionnements et la fragilité du système de soins.
Une préfiguration du CHU sera établie par la mission pluridisciplinaire prévue dans les prochains mois. Un CHU en Guyane, espérant que ce ne sont pas que des velléités gouvernementales à l'approche des élections présidentielles.
Un mot de l'épidémie de Covid-19 en Guyane, 50 cas supplémentaires en 24 heures, soit 7998 cas recensés, bientôt 8000 donc, et un décès supplémentaire, ce qui porte le total de morts à 45. Direction maintenant la Martinique où le patronat local se montre, on va dire, dubitatif à propos de la demande du ministre de la Santé, Olivier Véran. Le ministre souhaite que les entreprises se munissent, au cas où, d'un stock de masques pour leurs salariés. Guillaume Bacoul.
Je pense que c'est un non-sens économique parce que nos métiers de base même, on stocke des produits alimentaires déjà pour vendre nos clients, donc c'est quand même notre activité première. Je pense que se fournir au fil de l'eau, c'est tout à fait raisonnable. Je pense pas qu'on a un niveau épidémique tel qu'il faut se constituer des stocks pour 6 mois.
Prise de court comme tout le monde au début de la crise, les entreprises martiniquaises semblent avoir depuis développé des filières d'approvisionnement. Céline Rose, présidente de la CPME.
On s'assure que l'approvisionnement se fait régulièrement et que la demande peut être assurée par nos fournisseurs qui assurent très bien l'approvisionnement des masques au niveau du territoire. Et puis il y a aussi les couturières qui ont fait des masques en tissu. Il faut être prudent, il faut être attentif, mais on peut être serein et ne pas demander aux entreprises d'assumer encore des coûts de trésorerie qu'ils ont du mal à supporter.
Bon après-midi, Joanne. À demain.
Merci Benoît Ferrand, bon après-midi à vous. De la musique à présent sur RFI avec le groupe péruvien Los Vemblers de Iquitos et ce titre Lamento Selvatico. C'est la fin de cette édition du Journal des Amériques et d'Haïti à la rédaction en chef Véronique Guémard et Sylvie Noël, réalisation Émilou Bopa. Merci à elle et merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve demain. Cette semaine.